Christophe Chrysopoulos a un seul gros défaut. Il a une écriture magnifique, un univers romanesque magnifique. Un seul gros défaut, il ne parle pas français, ni n'écrit en français. Donc, le dialogue va se faire avec Michel Volkovitch en grec et en anglais. Voilà. Mais Michel, merci beaucoup encore une fois à Michel Volkovitch, va traduire que ce soit le grec ou l'anglais en français, donc vous comprendrez tout. Merci beaucoup à vous deux.
Bonsoir. Christos Chrysopoulos ne parle pas français, ou plutôt il ne veut pas parler français. Je suis sûr que son français est très bon, mais il attend qu'il soit excellent. C'est un perfectionniste. Mais il comprend tout, ou presque tout, donc attention à vos commentaires. Vous voyez, il a rigolé. Voilà. Alors, ma tâche sera simplement de servir de truchement, d'interprète. C'est un sport très différent de la traduction, donc je ferai au mieux. Je sais que Christos, qui est un pro non seulement de l'écriture, mais aussi de la parole, va se débrouiller tout seul. Je me bornerai simplement à le relancer éventuellement. Donc, je vais d'abord...
Juste une précision... Christophe Chrysopoulos est aussi photographe. Et d'ailleurs, il publie régulièrement sur Internet. Vous pouvez voir ses photos. Et sur les panneaux, là, les photos d'Athènes, les très belles photos que vous avez pu voir, donc c'est de la photocopie, sont de Christophe Chrysopoulos. Voilà, excuse-moi.
Très bien. Comme vous le savez sans doute, comme vous l'avez lu, il est l'auteur de plusieurs livres, dont quatre seulement sont disponibles en français. C'est bien ça, il y a la...
Ta biblia su metaphrasmena.
To Monclon, et la destruction du Parthénon, to une lampe entre les temps, que to le manipulé.
C'est bien ce que je disais, quatre livres qu'il va vous présenter lui-même dans un ordre que j'imagine chronologique.
Na leona parousia sis ta metaphrasmena biblia sti chronologikisira archizondas met.
Ne, ok.
Bien, très bien. Je lui ai proposé une présentation chronologique. Il a envie de faire autrement. J'ai l'habitude.
Let's go, my friend.
Λοιπόν, καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε, να ευχαριστήσω και τον Ντομινίκ, να ευχαριστήσω και εσένα που θα βοηθήσεις και όλους τους φίλους που ήρθαν.
Donc, je remercie avant tout le public, ceux qui sont venus, les organisateurs et l'interprète.
Donc,
c'est utile pour un auteur d'être amené à parler de son œuvre, car cela peut l'amener à y réfléchir et à la voir différemment. Donc il y a beaucoup de choses que l'on comprend a posteriori.
Ένα πράγμα λοιπόν που κατάλαβα εγώ είναι ότι τα βιβλία μερικές φορές οργανώνονται από μόνα τους, επικοινωνούν το ένα με το άλλο χωρίς να το ξέρεις από την αρχή.
Oui, alors l'une des choses que j'ai remarqué, c'est que les livres s'organisent tout seuls et prennent un sens commun les uns par rapport aux autres sans que l'auteur y ait pensé.
Και πριν κάποια χρόνια αντιλήφθηκα ότι εγώ είχα γράψει μια τριλογία που αφορά την Αθήνα.
Donc il y a quelques années, j'ai compris que je venais d'écrire une trilogie ayant pour sujet Athènes.
Χωρίς να έχω αυτή την πρόθεση εξ αρχής.
Sans que j'ai eu cette intention au départ.
Και αυτό για μένα ήταν αρκετά ενδιαφέρον, γιατί φάνηκε ότι ήταν σαν η πόλη να μου το είχε ζητήσει.
Et ce qui m'intéresse, c'est que c'était comme si la ville m'avait dicté ce choix. la ville elle-même.
Moi-même,
je ne le souhaitais pas.
Οπότε θα ξεκινήσω με αυτά, επειδή τα τρία αυτά έχουν μεταφραστεί από τα γαλλικά. Ήθελα να μιλήσω για αυτά τα τρία πρώτα, επειδή επικοινωνούν, φτιάχνουν μια ομάδα κατά κάποιο τρόπο.
Oui, donc je vais d'abord parler de cette trilogie donc qui forme un tout.
Αυτά θα τα κάνουμε λοιπόν χρονολογικά τότε. Να είμαστε...
Εντάξει, εντάξει.
Το πρώτο έχει τίτλο στα ελληνικά είναι «Περίκλειστος κόσμος», στα γαλλικά μεταφράστηκε «Μοντικλό».
Donc le premier titre en français s'appelle Un monde clos. Toutes les traductions sont de Anne-Laure Brisac aux éditions Actes Sud. Donc ce livre concerne décrit un quartier précis d'Athènes dont le nom c'est Neos Cosmos, c'est-à-dire un monde nouveau.
Ενδιαφέρουσα η μεταφορά αυτού του ονόματος, γιατί εκεί υπάρχουν προσφυγικά. Είναι μια γειτονιά που χτίστηκε για να στεγάσει νέους αφιχθέντες.
Oui. Alors, pourquoi ce nom Neos Cosmos? Parce que ce quartier a été créé pour accueillir des réfugiés d'Asie mineure après la catastrophe de 1922.
Και σήμερα στεγάζουν νέους μετανάστες, οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες έχουν φύγει.
Donc aujourd'hui, ce quartier accueille de nouveaux immigrants, les précédents étant partis.
Και είναι μια αρκετά μεικτή γειτονιά.
Donc c'est un quartier à la population assez mêlée.
Περιλαμβάνει μια παλιά αρμένικη κοινότητα.
Donc il y a une ancienne communauté arménienne. Il y a encore des réfugiés d'Asie mineure, enfin leurs descendants. Donc actuellement, il y a pas mal de Syriens, de Libanais, d'Africains, qui sont les immigrés les plus récents.
Και έχουμε και ένα ενδιάμεσο ρεύμα που ήταν Αλβανοί, Πολωνοί και από την πρώην Σοβιετική Ένωση, Γεωργιανοί.
Oui. Et donc entre ces deux générations d'immigrants, une génération intermédiaire qui comporte des Albanais, des Polonais.
Αλβανοί, Πολωνοί και από την πρώην Σοβιετική Ένωση.
Et aussi donc des immigrants venus d'Union soviétique.
Άρα αυτό. Η γειτονιά μοιάζει ακόμα να είναι ένας χώρος όπου φτιάχνεται νέα ζωή, όπου οι άνθρωποι ξεκινάνε σχεδόν από την αρχή.
Donc dans ce quartier, on peut avoir l'impression qu'il s'y trouve des gens qui sont en train de créer une nouvelle vie, un nouveau monde.
Εγώ βρέθηκα εκεί το 2002, επιστρέφοντας από σπουδές, επειδή τα νίκια ήταν πολύ φτηνά.
Donc il s'est retrouvé habiter ce quartier en 2002, de retour de ses études
à l'étranger.
En Amérique, c'est pour ça qu'il parle parfaitement anglais, mieux que moi. Et donc il s'est installé dans ce quartier à cause des loyers qui étaient abordables. Donc j'étais un élément étranger d'une certaine façon.
Και επειδή επέστρεφα στην Ελλάδα μετά από καιρό.
Et puisque j'étais de retour en Grèce après un certain temps.
Αλλά επίσης λόγω καταγωγής, επειδή υπάρχουν πολύ λίγοι νέοι Έλληνες που μένουν εκεί.
Et oui, et du fait de mon origine, puisque il y a peu de Grecs de souche qui habitent ce quartier.
Αλλά επίσης και κοινωνικο-οικονομικά. Επειδή εγώ ήρθα για να γράψω, οπότε δεν ήμουν ένας εργαζόμενος, δεν ήμουν από την εργατική τάξη.
Oui, il était aussi un peu étranger dans le quartier parce qu'il ne faisait pas partie de la classe ouvrière, des salariés. Il arrivait là-bas dans le but d'écrire.
Οπότε χρειάστηκε δύο πράγματα. Πρώτα να επινοήσω μια ταυτότητα εκεί.
Donc, j'avais deux nécessités. D'abord, me fabriquer une identité.
Δηλαδή έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να απαντήσω στο ερώτημα ποιος είναι αυτός και τι κάνει εδώ.
Donc j'avais à répondre à la question qui c'est celui-là et qu'est-ce qu'il vient faire là.
Και ο μόνος τρόπος να το απαντήσω αυτό, και εδώ έρχεται η δεύτερη necessity, ήταν ότι για να καταλάβω αυτό το πρόβλημα, το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να γράψω αυτό.
Et donc, pour faire exister cette identité, il fallait que je me mette à écrire.
Έτσι έγραψα ένα μυθιστόρημα για αυτό τον, για αυτή την γειτονιά, τέλος πάντων, προσπαθώντας να κατανοήσω τη θέση μου μέσα σε αυτήν.
Et donc j'ai écrit ce roman dans le but de comprendre, de déterminer ma place dans cette communauté.
Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, εγώ μπήκα μέσα στο μυθιστόρημα, ο ίδιος ως πρόσωπο.
Donc d'une certaine façon, je suis entré moi-même dans le roman en tant que personnage.
Αλλά επίσης και αντιστρόφως ζούσα τη γειτονιά σαν να ήταν εκείνη το μυθιστόρημα στην πραγματικότητα.
Et inversement, je vivais dans ce quartier comme si elle faisait partie du roman.
Έτσι, αυτό το βιβλίο είναι μια περιδίνηση, ένα vortex.
Donc ce roman, dans un sens, est un vortex, un tourbillon.
Και περιλαμβάνει πολλές αυτόνομες ιστορίες από πρόσωπα που επανέρχονται και το ένα συνεδέχεται.
Donc il se construit comme une succession d'histoires où des personnages reviennent sans cesse.
Και μου πήρε περίπου δύο χρόνια να γραφτεί αυτό το
livre. Et j'ai mis deux ans à l'écrire ce livre.
Εξακολουθώ να μένω τώρα εκεί.
Je vis toujours dans ce quartier.
Και πρέπει να πω ότι από τη μία πλευρά αισθάνομαι πλέον οικείος εκεί, δηλαδή αισθάνομαι πως πλέον ανήκω εκεί.
Oui, donc je me sens actuellement faire partie de ce coin.
Ενώ την ίδια στιγμή η γειτονιά αυτή έχει αλλάξει πολύ και αλλάζει καθημερινά.
Alors qu'en même temps, ce quartier a changé et change presque quotidiennement.
Και υπό μία έννοια είναι μία βιτρίνα για φαινόμενα πολύ σύγχρονα, αυτά που συμβαίνουν τώρα δηλαδή στην πόλη.
Oui, donc d'un certain côté, ce quartier est une vitrine qui montre bien ce qui se passe actuellement en Grèce.
Όχι μόνο λόγω των κατοίκων της, το γεγονός ότι είναι μετανάστες, υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες στην περιφέρεια. Και αυτής της συνύπαρξης.
Donc non seulement parce que on y trouve d'une part des immigrants et d'autre part des Grecs et que, donc se pose le problème de leur coexistence.
Αλλά επίσης επειδή γύρω από αυτή τη γειτονιά έχουν τοποθετηθεί πολύ σημαντικές χρήσεις άλλες από ιδρύματα, και θα σου πω ποια είναι αυτά, δηλαδή.
Donc, ensuite, autour de ce quartier, se sont installées diverses institutions telles que le centre culturel Onassis, qui a une activité très importante. Il y a deux grandes banques, les sièges de deux grandes banques.
Υπάρχει επίσης το ξενοδοχείο Intercontinental που είναι από τα πιο πλούσια στην Αθήνα.
Oui, l'hôtel Intercontinental qui est l'un des plus chic, les plus luxueux d'Athènes.
Και όλα αυτά κάπως περικυκλώνουν αυτή τη γειτονιά.
Oui, et donc tous ces bâtiments encerclent le quartier de Neos Cosmos.
Και γι' αυτό έδωσε και ο τίτλος Περίκλειστος Κόσμος. Είναι σαν να...
D'où cette impression que justement c'est un monde clos, il est cerné de tous côtés. Donc en même temps, ce quartier est en train de développer ses propres règles, ses propres institutions.
Και αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο παράνομο τζαμί που υπάρχει στην Αθήνα. Υπάρχει εκεί σε ένα γκαράζ.
Donc, on y trouve, par exemple, la plus grande mosquée d'Athènes, qui est clandestine, cachée dans un... Enfin, cachée, apparemment, le secret est éventé, donc, qui se trouve dans un garage.
Οπότε, είναι κατατρώπου μια πολύ ζωντανή μεταφορά για διάφορα φαινόμενα που αυτή τη στιγμή τεκταίνονται στην Ευρώπη.
D'accord. Donc ce quartier est une métaphore très vivante de ce qui se passe actuellement en Grèce.
Οπότε αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που αφορά την Αθήνα.
Donc voici, c'était le premier livre à propos d'Athènes.
Και αφορά αυτή τη γειτονιά.
Donc à propos de ce quartier-là.
Το δεύτερο βιβλίο αφορά το βασικό σύμβολο της πόλης, το βασικό της μνημείο που είναι ο Παρθενώνας.
Donc le second livre concerne le symbole fondamental de la ville, son monument principal, c'est-à-dire le Parthénon. Bravo.
Επειδή βλέπω όλη μου το γράψιμο το αντιμετωπίζω σαν μια διαδικασία αυτογνωσίας, δηλαδή ψάχνω να μάθω μέσα από το γράψιμο.
Donc pour moi l'écriture est un travail de visant à la connaissance de soi.
Αυτό σημαίνει ότι τα βιβλία σε ένα βαθμό έχουν και μια σχέση με το ιστορικό ίχνος, με την ιστορία.
Donc ce qui veut dire que le livre a jusqu'à un certain point une relation avec l'histoire, avec les traces de l'histoire.
Στον περίκλητο κόσμο αφορά το ίχνος της γειτονιάς ως γειτονιά μεταναστών που συνέχισε όπως σήμερα.
Donc dans le premier livre, nous avions le passage d'un quartier d'immigrants qui évolue vers le présent. Donc dans le deuxième livre, dont le titre français est La destruction du Parthénon,
αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον μου είναι η ιστορία ενός μανιφέστου που γράφτηκε το 44.
Donc ce qui a déterminé l'écriture, c'est la découverte d'un manifeste rédigé en
1944.
Donc qui a été publié en 1944. Donc juste avant les événements tragiques de décembre
1944. Κάπως αποσιωπημένο λίγο, όχι αρκετά γνωστό ποιητή και διανοούμενο, τον Γιώργο Μακρύ.
Donc un poète peu connu, Γιώργος Μακρύς.
Είναι ένα μανιφέστο το οποίο γράφτηκε ως μπροσούρα και κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1944 στην Αθήνα.
Donc ce poète Μακρύς a rédigé ce manifeste sous forme d'une brochure qu'il a distribué. Alors
και μετά εξαφανίστηκε, δεν υπήρχε μαρτυρία για αυτό το μανιφέστο.
Ensuite, cette brochure a disparu. On n'a plus de témoignages sur elle.
Ο Μακρύς, ενώ έγραψε διάφορα πράγματα και έγραφε και ποιήση και πεζογραφία και δεν δημοσίευσε τίποτα στη ζωή, παρά μόνο έκανε δύο μεταφράσεις.
Donc, cet étrange Μακρύς, bien qu'il ait écrit de la poésie, de la prose, n'a rien publié de son vivant, sinon des traductions.
Ήταν γνωστός επειδή είχε σχέσεις με πρόσωπα της πρωτοπορίας. Τόσο πάνω ήξερε τον Ακριθάκη, ήταν φίλος του Γονατά. Δηλαδή γνωστά πρόσωπα στον πολιτιστικό χώρο. Λογοτέχνης κυρίως και καλλιτέχνης.
Oui. Donc il était surtout connu comme étant lié à des artistes, à des écrivains, spécialement d'avant-garde de ce temps-là.
Και υπάρχει και ένα ωραίο επεισόδιο για το θάνατό του.
Donc il y a un épisode ωραίο, amusant, pittoresque concernant sa mort.
Ο Μακρύς είχε ένα βίτσιο, τέλος πάντων.
Il avait un vice.
Στο τέλος της ζωής του, ανέβαινε στις ταράτσες των σπιτιών και περπατούσε γύρω-γύρω στο ρήθρο.
Oui, il montait sur les terrasses des maisons et il marchait sur le rebord, donc au-dessus du vide.
Et
Oui. Et sa famille, évidemment, craignait pour sa vie, en particulier son cousin.
Αλλά πραγματικά έπεσε από ένα σπίτι στην οδό Σεμιτέλου που είναι στα Εξάρχεια.
Donc on ne sait pas si la chute fatale fut un accident ou un suicide. Le résultat c'est qu'il est mort et ça se passait dans le quartier d'Exarchia, rue
Σεμιτέλου.
Voilà, une rue donc Exarchia.
Και υπάρχει αυτή η μαρτυρία ότι ο Θεοδωρός τον είδε όταν έμπαινε μέσα.
Donc il paraît que un concierge l'a vu entrer dans une maison et lui a dit « Où allez-vous, monsieur Macris ?» Et il aurait répondu « Je redescends tout de suite. »
Και αυτό το επεισόδιο το μεταφέρει ο Λεωνίδας Χριστάκης που είναι ένας άλλος λογοτέχνης, τέλος πάντων, φίλος του Μακρύ.
Λεωνίδας Χριστάκης. Donc cet épisode est relaté par un autre auteur, Λεωνίδας Χριστάκης.
Λοιπόν, ο Μακρύς δεν δημοσίευσε τίποτα δικό του, αλλά μετά το θάνατό του βρέθηκαν όλα τα γραπτά περίπου, όπως του Πεσόα, τα χαρτιά ήταν κλεισμένα μέσα σε ένα chest, πώς το
λέμε. Un coffre.
Non.
Donc après sa mort, il n'avait donc rien publié. On a découvert dans ses affaires une malle pleine de manuscrits, ce qui nous rappelle évidemment Pessoa.
Και τελικά επιμελήθηκε τα γραπτά του Γονατάς, ο Επαμηνώντας Γονατάς που ήταν φίλος του.
Donc un autre écrivain, Epaminondas Gonatas, un excellent auteur de nouvelles, s'est occupé de la publication de ses écrits.
Και κυκλοφόρησαν το 1986.
Donc ces textes ont paru en 1986.
Με τον τίτλο «Τα γραπτά του Γιώργου Μακρύ».
Sous le titre « Les écrits de Yorgos Makris ».
Λοιπόν, μέσα εκεί υπάρχει και αυτή η μπροσούρα.
Et dans ces textes, on retrouve la brochure.
Και ο τίτλος της ήταν « Να καταστρέψουμε τον Παρθενώνα ».
Et le titre de la brochure, c'était « Détruisons le Parthénon ».
Και είναι ένα κείμενο το οποίο ακολουθεί την παράδοση των φουτουριστών, του Μαρινέτη, του Νταντά.
Donc c'est un texte qui suit la tradition des futuristes, de Marinetti, de Dada, donc 1920 par là.
Και ζητάει, και αυτή έχει σημασία του πότε γράφτηκε το 44 με τη λήξη του πολέμου.
Oui, et ce qui est important, ce qui est significatif, c'est que le texte a été écrit à la fin de la guerre, en 1944, n'oublions pas.
Και κατά κάποιο τρόπο περιγράφει αυτό το αίτημα να ξεκινήσουμε από την αρχή, να ξεκινήσουμε από το μηδέν, να τα χτίσουμε όλα καινούργια.
Voilà, et pour résumer, le livre propose, la brochure propose la table rase, tout repartir à zéro, sans le Parthénon.
Ναι, και ζητάει την καταστροφή όλων των μνημείων, ξεκινώντας από τον Παρθενώνα.
Voilà, et il demande, ni plus ni moins, la destruction de tous les monuments historiques, à commencer évidemment par le plus encombrant.
Το ενδιαφέρον για μένα είναι ότι μέσα στο βιβλίο το μανιφέστο αυτό δεν μεταφέρεται ολόκληρο, είναι λογοκριμένο.
Ah, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le livre, le manifeste n'est pas présenté intégralement, le texte n'est pas intégral car il a été censuré.
Δηλαδή, από τα 10 σημεία, γιατί ήταν με σημεία 1, 2, 3, 4, υπάρχουν μόνο τα 6, τα 4 λείπουν.
Donc il y avait 10 rubriques, 10 numéros et il ne nous en reste que 6.
Η λογοκρισία πότε έγινε? Όταν βγήκε το βιβλίο, βγήκε έτσι. Το 86, όταν κυκλοφόρησε.
Δηλαδή η λογοκρισία είναι το 86.
Ναι, αναφέρει ο Γονατάς που είναι επιμελητής ότι ο επιμελητής αποφάσισε αυτά τα άρθρα να μην συμπεριληφθούν.
D'accord, je voulais comprendre quand même. Apparemment, la censure a été une auto-censure. Ce serait Gonatas, donc responsable de l'édition, qui aurait décidé que 4 numéros sur 10 ne seraient pas publiés. Ah, mystère. Pour moi, le plus intéressant, c'était ça, justement.
Οπότε προσπάθησα να μάθω γιατί έγινε αυτό και ποια ήταν τα σημεία τα οποία λείπανε.
Oui, alors évidemment, j'ai cherché à savoir quels étaient les éléments qui manquaient et pourquoi.
Εντωμεταξύ, ο Γονατάς είχε πεθάνει.
Ο Γονατάς είχε πεθάνει.
Oui, Γονατάς était mort, évidemment.
Πήγε λοιπόν, ρώτησα στην Εστία που ήταν εκδότες.
Donc, je suis allé voir l'éditeur, Εστία.
Δεν πήρα σαφή απάντηση.
Et la réponse n'a pas été très claire.
Αλλά υπήρχε η υπόνοια ότι αυτά τα σημεία ήταν τα πιο τεχνικά για το πώς θα έπρεπε να γίνει η καταστροφή.
Donc, on soupçonne que ces éléments manquants concernaient la façon technique de détruire ces bâtiments.
Και άμεσα τίθεται ένα ζήτημα ηθικής ευθύνης πλέον όταν δημοσιεύεται ένα τέτοιο κείμενο, ότι μπορεί να είναι επικίνδυνο, δηλαδή μπορεί κάποιος να εμπνευστεί και να πάει να κάνει μια ζημιά.
Voilà, on craignait sans doute que ces indications trop précises ne soient une incitation trop directe au passage à l'acte.
Εγώ μίλησα με ανθρώπους που ήξεραν τον Μακρύ.
Donc j'ai parlé avec des gens qui avaient connu Macris.
Μίλησα και με τώρα. Τόσο πάνω δεν έχει νόημα τώρα να πω γιατί δεν τους ξέρω. Κανείς δεν ήξερε, δεν θυμόταν ποια ήταν αυτά τα στοιχεία και επίσης μίλησα και με κάποιους ακαδημαϊκούς και επίσης δεν ξέρανε που υπάρχει αυτή
Donc, personne ne savait en fait quel était le contenu de ces éléments. Bon.
Οπότε αυτή ήταν η ιδέα για μένα, με παρακίνησε το γεγονός ότι η λογοτεχνία μπορεί να γίνει επικίνδυνη σε έναν βαθμό.
Donc, ce qui m'a excité dans cette histoire, c'est que c'était l'idée que la littérature peut devenir dangereuse.
Οπότε αυτή η μικρή νουβέλα, γιατί είναι σύντομο το βιβλίο.
Oui, donc le livre est court, appelons-la une novella.
Είναι η ιστορία ενός προσώπου που διαβάζει την προσέρα του Μακρύ και αποφασίζει να την υλοποιήσει.
Et donc le livre, la novella, raconte l'histoire d'un homme qui lit la brochure et qui décide de la mettre à exécution.
Οπότε διαβάζουμε μια υποτιθέμενη απολογία του δράστη. Το πέτυχε, δηλαδή τον κατέστρεψε στο βιβλίο.
Alors, dans le livre, il réussit. Le Parthénon est détruit.
Και στο βιβλίο διαβάζουμε την απολογία του. Που δεν είμαστε και σίγουροι αν είναι αυτή, αλλά φημολογείται ότι είναι αυτή, γιατί ένα κείμενο διέρευσε την απολογία του δράστη.
Donc, dans le livre, on a ensuite l'auto-apologie de la défense du criminel.
Διαβάζουμε τέσσερις μαρτυρίες που αφορούν και την πράξη και το πρόσωπο του δράστη.
Donc nous lisons quatre témoignages concernant l'auteur de l'acte et
και το δράστη, το δράστη και το γεγονός.
Et qui décrivent donc l'événement lui-même et la personnalité de l'auteur.
Και υπάρχει επίσης ένα δημοσιογραφικό κείμενο που είναι η είδηση του γεγονότος, πως
Donc, il y a aussi un article de journal décrivant la chose.
Και ένα στοιχείο, τα πράγματα που βρέθηκαν, ένα στοιχείο, μία λίστα από το ανακριτικό υλικό, από τα πράγματα που βρέθηκαν στο σπίτι του δράστη και μέσα σε αυτά είναι και η μπροσούρα.
Donc, et puis aussi une liste des objets qui ont été retrouvés au domicile de l'auteur de l'acte, où l'on trouve... Évidemment, la dite brochure.
Το βιβλίο τελειώνει με ένα επιμύθιο ότι θα κατασκευαστεί νέος Παρθενώνας και θα είναι έτοιμος μέσα σε 15 μήνες.
Donc, le livre se termine sur un épilogue où il est dit que le Parthénon sera reconstruit et qu'il sera disponible dans un délai de 45 mois.
Ça rend à peine des minutes.
De 15 minutes.
15 mois. Oui, oui, très rapide si, si l'on considère qu'ils sont en train de le reconstruire depuis quelques décennies.
Για μένα λοιπόν όλο αυτό το ζήτημα αφορά ως ένα βαθμό αυτό που έλεγα πριν, πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι η λογοτεχνία, δηλαδή σε ποιο βαθμό μπορεί να μιλήσει για πράγματα τα οποία μπορούν πραγματικά να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις.
Oui, donc le thème pour moi de tout cela, c'est l'efficacité de la littérature et les dangers que cela peut représenter, dans quelle mesure la littérature peut-elle influer sur la réalité. Donc, entre-temps, il y a toute une réflexion sur ce que peut représenter le Parthénon, le symbole de l'Antiquité.
Μοιάζει να περιέχει όλα τα ζητήματα που αφορούν την εθνική ταυτότητα, την ιδεολογία, την πολιτική, τη χρήση της ιστορίας, δηλαδή την ουσία αυτού του που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε κατά κάποιο τρόπο.
Oui, ce qui nous, enfin, ce thème-là renferme aussi celui de l'identité nationale, de l'idéologie, la politique.
Τη χρήση της ιστορίας.
Oui, l'emploi qu'on peut faire de l'histoire.
Και επίσης ένα βαθμό, όχι κάτι που αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και την Ευρώπη γενικότερα.
Oui, tout cela ne concernant pas uniquement la Grèce, mais l'Europe entière.
Μάλιστα έχει ενδιαφέρον ότι όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο.
Oui, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsque le livre est paru.
Πέραν από τα ζητήματα που ανέκυψαν στην Ελλάδα από την έκδοσή του, δηλαδή τις κριτικές της.
Oui, alors par-delà le retentissement que ça a pu avoir, les critiques, les réactions.
Και ένα συνέδριο που κάναμε με αφορμή αυτό στη στέγη γραμμάτων που είναι η γειτονιά.
Oui, il y a même eu un congrès, un colloque qui s'est tenu d'ailleurs dans son quartier, Neos Cosmos. Sur ce sujet.
Ήταν εκείνη τη χρονιά που κυκλοφόρησαν τα γνωστά εξώφυλλα, τέλος πάντων, που υπήρχαν σε αρκετά περιοδικά, κυρίως γερμανικά, όπου υπήρχε ένα μεγάλο ευρώ που έπεφτε και κατέστρεφε τον Παρθενώνα, ή ο Παρθενώνας βούλιαζε μέσα σε μια θάλασσα.
Donc, à la même époque, est paru dans plusieurs magazines en Europe un dessin. C'était en couverture de certains magazines.
Stern,
en Allemagne, donc, on voyait un énorme euro tombant, s'écrasant sur le Parthénon et le démolissant.
Οπότε, όχι μόνο η καταστροφή του Παρθενώνα είναι μια μεταφορά που ισχύει και πέρα από την Ελλάδα.
Oui. Donc la destruction du Parthénon n'est pas simplement une métaphore qui concerne, enfin qui dépasse les frontières de la Grèce.
Αλλά ανακάλυψα ότι διαβάζοντας.
Oui, donc j'ai découvert qu'en lisant.
Ότι στην ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας.
Que dans l'histoire de la littérature grecque.
Μοιάζει να υπάρχουν συγγραφείς που σε ένα κέριο σημείο ιστορικό καταστρέφουν τον Παρθενώνα συμβολικά.
Donc on découvre que à certaines époques décisives, on trouve donc des auteurs qui détruisent le Parthénon.
Να το πω, υπάρχει η περίπτωση του Νικόλα Κάλλας του 33. Où c'est un pima catastrophe de Barcelone qui est lié avec la microasiatique catastrophe.
Donc on trouve en 1933 dans un poème de Nicolas Callas aussi un Parthénon détruit. Oui, et il relie cette destruction à cette blessure terrible que fut pour la Grèce la catastrophe de 1922 lorsqu'ils ont été chassés d'Asie mineure.
και το περικείμενο φυσικά του πολέμου.
Oui, donc il y a Macris et donc le, dans le contexte de la guerre.
Υπάρχει το 50 ο Κώστας Μόντης, που είναι ένας Κύπριος ποιητής, ο οποίος πάλι συνεπήμα του καταστρέφει τον Μπαρθελώνα και το συνδέει με το, με το ζήτημα του πολιτικού της Κύπρου.
Donc en 1950, Kostas Mandis, peut-être le poète le plus célèbre de Chypre, détruit lui aussi le Parthénon et le relie lui à la situation politique de Chypre.
Και υπάρχει ο Χρήστος Βακαλόπουλος που συνδέει την καταστροφή του Παρθενώνα τη δεκαετία του 80 με την περιβαλλοντική υποβάθμιση της Αθήνας.
Et donc en 1980, un autre poète, un prosateur, qui lui, détruisant le Parthénon, relie l'événement à, la, si vous voulez, la dégradation de l'environnement dans Athènes.
Και τα είπα αυτά για να δείξω ότι ο σύμβολο Παρθενώνας τοποθετείται σε διαφορετικά πλαίσια και χρησιμοποιείται ως σύμβολο στη λογοτεχνία.
Donc, où l'on voit donc, que cette destruction est utilisée comme symbole dans la littérature, mais à chaque fois dans un cadre différent. Donc un symbole polyvalent. Je ne vous dirai pas aujourd'hui quelle est ma position personnelle, si je suis pour ou contre la destruction du Parthénon.
Οπότε αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο που αφορά το, όπως είπα, το σύμβολο της πόλης.
C'était donc le deuxième volet de la trilogie athénienne.
Το τρίτο είναι το πιο πρόσφατο.
Donc le troisième, c'est le plus récent.
Ο τίτλος του είναι το «Une lampe entre les dents».
Oui, donc son titre français, c'est «Une lampe entre les dents».
Και είναι μια...
Oui, oui, c'est une flânerie, une promenade, un parcours pédestre. Christos est marathonien, mais il marche aussi. Je ne traduis pas.
He's a better marathon runner than I am.
Fini.
Γράφτηκε τους τελευταίους τρεις μήνες του 2011, δηλαδή Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο.
Donc le livre a été écrit dans les trois derniers mois de 2011. Donc le oui, c'est, donc il a été écrit dans les derniers mois de 2010.
Εγώ έκανα μεγάλες βόλτες στην Αθήνα.
Donc il a fait de longues marches dans Athènes.
Οι περισσότερες ήταν βραδινές.
La plupart du temps tard le soir.
Και μετά γυρνούσα και έγραφα τη βόλτα κατά κάποιο τρόπο.
Et ensuite rentré chez moi, j'écrivais la promenade.
Οπότε το βιβλίο αυτό έχει τρία στοιχεία, αποτελείται από τρία είδη λόγου.
Donc le livre se compose de trois formes d'écriture différentes.
Το ένα είναι περιγραφικό και είναι η περιγραφή της περιπλάνησης.
D'abord, donc il y a une dimension descriptive, la description de la promenade.
Ένα δεύτερο στοιχείο είναι στοιχείο αναστοχασμού για την βόλτα, αναστοχασμού για το τι.
Donc, deuxième dimension, deuxième plan, c'est la réflexion sur ce qui s'est passé sur cette promenade. Et là aussi, on trouve une dimension historique. Donc, il y a beaucoup de textes en rapport avec justement ce type de déplacement, de promenade, à commencer par Baudelaire, Walter Benjamin et Michel de Certeau. C'était donc le deuxième élément.
Το τρίτο είναι μια συνομιλία που είχαμε έναν SDF, έτυχε και βρεθήκαμε μαζί στον δρόμο και είχαμε μια πολύ σύντομη συνάντηση.
Et donc le troisième niveau, si vous voulez, c'est une discussion que j'ai eue avec un SDF, en français dans le texte, une brève discussion. Donc trois types de narration.
Και υπάρχει και ένα δεύ, ένα τέταρτο στοιχείο αφήγησης που δεν είναι γλωσσικό, γιατί υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες μέσα στο βιβλίο.
Donc il y a un quatrième élément mais qui n'est pas qui n'est pas qui ne concerne pas les mots, c'est les photographies qui jalonnent le texte et qui sont de l'auteur.
Το κίνητρο για να γραφτεί αυτό το βιβλίο προέκυψε
Donc l'étincelle qui a déclenché l'écriture a été fortuite. Donc l'idée de départ, c'était de réécrire un livre de
Siegfried.
Siegfried Krakauer, qui était donc un collaborateur de Walter Benjamin, qui concernait la ville de Paris. Oui, donc tous deux, Krakauer et Benjamin, se trouvaient ensemble à Paris au moment où Benjamin a écrit son livre sur les passages parisiens. Donc Krakauer avait écrit une petite nouvelle et je voulais la réécrire, mais cette fois à Athènes.
Αν σας ενδιαφέρει ένα πολύ ωραίο κείμενο αυτό, λέγεται, ο τίτλος του είναι «Η ανάμνηση ενός παρισινού δρόμου». Είναι ελεύθερο στο διαδίκτυο, μπορείτε να το βρείτε.
Donc, ce texte de Krakauer est excellent. Son titre, c'est «Souvenir d'un...»
«Η ανάμνηση ενός παρισινού δρόμου».
Oui, «Souvenir d'une rue parisienne» et on le trouve sur Internet. Dans toutes nos langues, enfin anglais, français, allemand. Et donc c'est le récit d'une promenade dans le quartier de Grenelle. Donc c'est écrit en 1908. Donc, tandis que je me promenais dans Athènes avec l'idée d'écrire ce texte, Et donc, je me suis aperçu à ce moment que ce qui me préoccupait le plus, c'était les changements de la ville à cette époque. Donc en 2010, la ville avait déjà changé et était en train de changer à toute allure.
Οπότε περισσότερο άρχισα στην αρχή να κρατάω μνημονικές σημειώσεις, χωρίς να το καταλαβαίνω.
Donc j'ai commencé à prendre des notes de mémoire sans me rendre compte de ce qui se passait.
Για το τι πρόσεχα, ποιες αλλαγές μάλλον πρόσεχα, γιατί δεν είναι όλες εμφανείς.
Oui, donc j'ai noté ce dont je me souvenais et parmi ces changements, ils ne sont pas tous évidents, pas tous visibles. Et évidemment, ce qui m'intéressait le plus, c'était ce qui avait changé ou était en train de changer, mais que nous ne pouvons pas voir.
Και δευτερευόντως, από αυτό, πώς ο δικός μου τρόπος να συνδέομαι με την πόλη μου έχει αλλάξει. Με ποιο τρόπο εγώ, χωρίς να το καταλάβω στην αρχή, είχα προσαρμοστεί σε αυτές τις νέες συνθήκες.
Et ensuite, ce qui m'intéressait, c'était la façon dont mon regard sur la ville, mon rapport avec la ville, avait changé, éventuellement, sans que je m'en rende compte.
Έτσι γράφτηκε αυτό το βιβλίο μέσα σε αυτούς τους τρεις μήνες.
Et c'est ainsi que le livre s'est écrit en trois mois.
Και αυτό ήταν ένα πολύ σαφές αποφασισμένο πρόγραμμα εξ αρχής. Δηλαδή ήξερα ότι θα γράψω για τρεις μήνες και θα σταματήσω το Δεκέμβριο.
Donc le programme était très clair dès le début. Je savais que l'écriture durerait 3 mois et que je m'arrêterais pile le 31 décembre.
Και αποφάσισα να πάρω τον κίνδυνο να το δώσω στον εκδότη αμέσως μόλις τέλειωσε.
Et donc j'ai pris le risque, j'ai décidé de prendre le risque de le remettre à l'éditeur tout de suite après l'avoir terminé. Chose que je n'avais jamais faite auparavant parce que les textes ont besoin de mûrir et d'être revus.
Αλλά αισθάνθηκα πως αν υπήρχε ένα στοιχείο σε αυτό το κείμενο είναι ακριβώς να κινδυνέψεις, να γράψεις για αυτό που συμβαίνει απολύτως τώρα.
Donc, je l'ai fait parce que l'intérêt pour moi de la chose, c'était de prendre ce risque de raconter les choses à chaud, telles qu'elles étaient vécues, ressenties.
Και έτσι το βιβλίο κυκλοφόρησε το Φλεβάρι του 2011. Δηλαδή πήρε δύο μήνες μέχρι να...
Et c'est ainsi que le livre a été publié en février
2011.
Et donc, ces trois livres constituent un tout qui expose ma relation avec... la ville, enfin la ville elle-même et ma relation avec elle. Donc il y a aussi un quatrième livre qui a été traduit en français. Lui aussi concerne une ville. Donc ce n'est pas, cette ville n'est pas à Prague, c'est une ville sœur de Prague.
Είχα κάποτε την ιδέα να γράψω πέντε νουβέλες, κάθε μία θα αναφέρεται σε μία αίσθηση, στις πέντε αισθήσεις.
Le projet initial était d'écrire cinq textes, chacun d'eux concernant l'un des cinq sens.
Ξεκίνησα να γράψω πρώτα την ιστορία της αφής.
Donc il y a d'abord eu l'histoire du toucher.
Και αυτό το κείμενο κατά κάποιο τρόπο αυτονομήθηκε, αυτό από μόνο το απέκτησε.
Et ce fragment a pris son autonomie.
Και κυκλοφόρησε λοιπόν αυτό, έγινε λοιπόν αυτό το βιβλίο το οποίο στα ελληνικά είναι ο Μανικιουρίστας.
Donc, et c'est ce premier chapitre, en fait, qui est devenu un livre à lui tout seul, paru sous le titre La Manucure. Et donc, La Manucure, c'est l'histoire du toucher.
Και είναι η ιστορία ενός προσώπου που μαγεύεται από την αίσθηση της αφής και κατασκευάζει έναν ολόκληρο τεχνητό κόσμο γύρω από αυτό.
Donc c'est l'histoire d'une personne qui est fascinée par le toucher et qui construit tout un monde artificiel autour de ce sens-là.
Και κλείνοντας, υπάρχει ένα στοιχείο που συνδέει αυτό το βιβλίο με όλα τα υπόλοιπα και είναι ένας άλλος τρόπος να οργανώνει κανείς τη δουλειά του όταν τη σκέφτεται.
Donc κλείνοντας
το βιβλίο. Ενώ κλείνοντας τώρα.
Oui, pour être bref, il y a dans ce livre un élément qui le relie au.
C'est une trilogie, oui. Ναι, ότι τοποθετεί το μανικιουρίστα και την τριλογία με έναν άλλο τρόπο πλέον. Επικοινωνούν με έναν άλλο τρόπο.
Oui, donc tous ces livres communiquent entre eux d'une autre façon.
Και είναι ότι. Στη λογοτεχνία με ενδιαφέρει πολύ η προσωπικότητα του αιμονικού προσώπου, ενός προσώπου που έχει μία αιμονή.
Ce qui m'intéresse beaucoup depuis toujours, c'est les personnages qui ont une idée fixe.
Ίσως γιατί όταν εγώ αποφάσισα ότι
Oui, parce que, sans doute parce que moi-même, quand j'ai décidé de me mettre à écrire, j'avais comme idée fixe justement l'écriture. Oui, donc lui, le manucure, son idée fixe est donc le toucher. Donc celui qui veut détruire le Parthénon, bah, lui aussi, c'est son idée fixe, c'est justement cette destruction.
Στο Mont Clos, ο αφηγητής έχει μια αιμονή με τον χώρο ο οποίος τον υποδέχεται.
Donc dans le monde clos, le personnage principal est obsédé par ce monde clos où il vit justement, ce lieu-là.
Και στο φακό στο στόμα η αιμονή είναι η περιδιάβαση, η κίνηση, η μη στάση, η διαρκής κίνηση.
Donc et dans une lampe entre les dents, l'idée fixe, l'obsession, disons, c'est justement l'errance continuelle dans les rues. Donc maintenant, c'est ainsi que je vois ces quatre livres et on voit donc ce qui les relie étroitement. Évidemment, le lecteur est libre d'avoir une toute autre vision des choses. J'espère ne pas vous avoir fatigué.
C'est Tellios, il a dit ce matin.
Petite remarque personnelle avant de donner la parole à Baptiste. Vous voyez quel pro c'est notre ami Christos. Hein, il s'arrête juste pour me laisser le temps. Oui, bravo.
Donc c'est un extrait d'une lampe entre les dents. Il m'arrive souvent de ne pas avoir envie de rentrer de ma flânerie quotidienne. L'idée d'être chez moi ne me dit rien. Je rêve de pouvoir marcher interminablement sans être sensible à la fatigue, sans que mes forces s'épuisent, sans même avoir besoin de m'asseoir ne serait-ce qu'une minute. Simplement de marcher sans fin. C'était le cas durant cette flânerie de décembre. Après la bourrade du gardien de parking, je me suis détaché du mur contre lequel je m'étais plaqué et j'ai continué avec la même ardeur. Ce petit épisode ne m'avait pas découragé, au contraire, il avait aiguisé ma curiosité et mon impatience. C'est un état proche de l'addiction qui s'empare de moi chaque fois que je me retrouve dans la rue. Je marche chaque jour des heures. Cela relève presque du fétichisme. Je me suis même équipé d'un podomètre pour mesurer les distances que je parcours. C'est obsessionnel, je ne peux pas m'en empêcher. C'est même si fort que j'ai souvent l'impression d'être un traître quand il m'arrive de rester un jour chez moi. Je déclare, j'ai envie de sortir. Je savoure les rues aveuglément. Je me laisse conduire par elles. Je ne rentre que lorsque je suis exténué et rien ne m'interdit de succomber de nouveau à ce plaisir le lendemain. Au contraire, au-delà du brouillard que la fatigue diffuse autour de moi, l'envoûtement de la rue est encore plus puissant. Je m'usarde. Je me tiens à certains trajets jour après jour. Les gens doivent me prendre pour un traîne savate. Certains d'ailleurs, pour la plupart commerçants ou employés, me connaissent et je les connais à force de les rencontrer chaque jour quand je passe dans le quartier où ils travaillent. Je croise aussi de temps en temps un confrère écrivain, mais nous n'avons jamais engagé la conversation. Et pourtant, au sens strict, je ne marche pas le nez au vent, loin de là. Je sens que j'ai une destination tout à fait précise, que très souvent, fort heureusement, j'oublie. Comme si je perdais le bénéfice de la marche de la veille quand j'empruntais le même itinéraire. Alors je sors dans la ville comme quelqu'un qui est anxieux de retrouver dans ses souvenirs une sensation perdue. Mais en vain. Désireux de revenir dans tel ou tel lieu précis ou de revivre une impression oubliée, j'explore la moindre petite ruelle, même si je la connais par cœur. Si c'était possible, je voudrais parcourir chaque rue séparément. Depuis la rue Agios Sostis, où j'habite, jusqu'au centre et au-delà. Quand je me faufile dans un endroit qui me fait passer du soleil à l'ombre, puis de nouveau au soleil, j'éprouve souvent cette sensation singulière que je n'évolue pas seulement dans une zone donnée en cherchant à atteindre le but que je me suis fixé, mais que je vais au-delà des limites spatiales et que c'est un espace temporel que je traverse. Que je pénètre sur un territoire fait d'années et de décennies, où l'enchevêtrement du temps est tout autant labyrinthique que celui de la ville elle-même. Il est clair que lors de mes flâneries, je ne poursuis aucun but esthétique. Je suis réfractaire à la pureté. Ces villes d'Europe chargées d'histoire au style fortement marqué, avec cette beauté immaculée en parfait état de conservation, ne m'attirent pas outre mesure. Et si je les visite, je ne refuse pas de le faire à l'occasion, c'est parce que je suis certain qu'elles recèlent en leur sein de charmantes faustotes, comme toutes les villes, et c'est cela qu'il me plaît de rechercher. Mais Athènes semble un cas différent. Peut-être parce que c'est ma ville. Elle est une fausse note géante qui jure à tous les coups, mais de façon si différente chaque fois. Habiter la ville nous oblige à nous confronter à la vie dans ses expressions les plus complexes et les plus puissantes. C'est bien pour cela qu'il y a une limite esthétique fondamentale qui dément radicalement l'expression à la mode, une véritable œuvre d'art. Une ville, si attirante soit-elle, ne peut jamais être comparée à une œuvre d'art. Nous avons besoin de l'art pour différentes raisons, la principale étant peut-être qu'il nous renvoie à notre nature humaine. Malgré cela, et même s'ils ont à voir l'un avec l'autre, la vie et l'art ne sont jamais interchangeables, et la fusion qui s'opère souvent entre les deux ne ressortit ni à la vie ni à l'art. Bref, une ville n'est jamais une œuvre d'art. Du reste, la ville se situe par définition aux antipodes d'un objet précis. C'est une forme de désordre vivant. Ce sont de véritables mensonges qu'on nous raconte quand on nous explique comment on cherche à mettre de l'ordre, soi-disant dans la vie urbaine. En réalité, il s'agit d'un système autonome et seule l'image du vivant est pertinente pour décrire la ville. Elle est une contradiction absolue qui intègre les pairs les plus antinomiques, beauté, laideur, violence, sérénité, vacarme, calme. Un équilibre physiologique qui bien souvent dérive vers les extrêmes, comme cela finit par se produire ici, dans notre ville, avec la misère qui gangrène les rues. Aucune métaphore n'est pourtant à même de rendre compte des aspects contradictoires que revêt une mégalopole. S'il fallait une image visuelle, je dirais qu'Athènes fait penser aux fumerons qui subsistent après un incendie de forêt le soir. Dans ce champ obscur ravagé par les flammes se maintiennent de nombreux petits foyers. Les uns sont éteints, d'autres rougeoient encore, plusieurs se rejoignent, quelques flammes isolées tremblotent ici ou là, des braises éparpillées brillent telles des stigmates lumineux. Chacun de ces petits feux grignote l'espace alentour dans le champ aux limites indéfinies, tout entier plongé dans l'obscurité. De petites images, chétives, fragiles, subsistent tant que les flammes sont encore chaudes, puis elles s'évanouissent. La lumière crée un espace éphémère qui disparaît peu à peu, tandis que le champ refroidit et que les feux se meurent. Telle est la sensation que j'ai chaque fois que je sors marcher dans la ville. Ajoutée à l'impression étrange que les feux encore vivants sont d'une certaine manière des faux. En réalité, nous devrions tous être déjà plongés dans l'obscurité. Il arrive pourtant que le hasard nous surprenne. Quand je me promène, j'ai l'habitude de marcher tête baissée et souvent je fixe du regard les pas d'un autre passant, reproduisant une cadence qui corresponde à mon allure. Je regardais les passants quand mes yeux se sont attardés sur les pas d'un homme qui marchait pieds nus dans ses chaussures. enveloppé de haillons en guise de chaussettes. Il attendait que le feu passe au rouge pour traverser la rue. Les lumières d'une vitrine voisine éclairaient une blessure qu'il avait sur la cheville gauche et ça m'a aussitôt fait penser aux chaussures du tableau de Van Gogh et au débat entre Heidegger et Shapiro, avec entre les deux l'intervention contestable de Derrida. Mais aussitôt, la discussion entre deux philosophes et un historien de l'art m'a semblé superficielle et assez inconvenante, déplacée et hors sujet. L'association d'idées était partie d'une œuvre d'art pour aboutir à une paire de chaussures réelles. Et voilà que la même idée faisait retour. La vie et l'art ont beau avoir parties liées, ils ne sont jamais interchangeables. Et même si pour différentes raisons nous avons besoin de l'art, la principale est surtout qu'il nous rappelle, je le répète, que nous sommes des êtres humains. Bien que j'ai souvent un doute sur le caractère évident du réel, et même sur cette soi-disant humanité, là, ces chaussures bourrées de lambeaux de tissu semblaient défier l'énoncé savant « Le tableau aux chaussures exhibe ce qui manque à quelque chose pour être une œuvre. Elle exhibe, en chaussures, le manque d'elle-même, on pourrait presque dire son propre manque. Je ne peux m'empêcher de penser qu'en l'occurrence, ce qui manque dans le tableau de Van Gogh, d'après Heidegger, se trouvait bien là, sous mes yeux, à attendre dans l'indifférence générale sur le bord d'un trottoir à Athènes. Une paire de chaussures réelles, différentes et pourtant si semblables. Le feu est passé au rouge et une association d'idées m'a fait bredouiller en moi-même que de nombreuses histoires circulent dans la rue sur des clochards, même si ce n'est pas ce mot qui est employé, qui ont découvert un trésor ou qui sont riches à millions et qui continuent de vivre en haillons dehors. Ces discours ne manquent pas d'être dangereux. La vie dans la rue est tout sauf le royaume de l'innocence et de la loyauté. La pauvreté rend bestiale et rien n'est plus difficile que de vivre en respectant une éthique de la survie. Une histoire inventée de toutes pièces et a priori inconsistante peut tuer. C'est pourquoi il y a des tas de superstitions pour qui vit dehors. Ne jamais ramasser un objet au milieu de la chaussée. Le traîner du bout du pied, si besoin, jusqu'au mur le plus proche, mais ne jamais se baisser en pleine rue. Ne jamais courir, se relever en s'appuyant seulement de la main gauche. La liste est longue. Il y a des compétences qu'il est indispensable de développer. Marcher dans la foule sans se faire voir. Fermer les yeux et ne pas se laisser perturber par les bruits inconnus qu'on entend autour de soi. Ne pas avoir peur, ne se laisser dégoûter par rien, être indifférent au regard des autres, se rendre invisible, se fier à son intuition et ne pas tenir compte des mises en garde que la raison suppose. La raison de la rue est illusoire, ici les règles sont différentes. Résister à l'envie de nouer des contacts, s'endurcir, inverser la foi qu'on peut avoir dans le destin, apprendre à ne pas espérer, se fier au hasard, obéir aux exigences de son corps, ne pas réfléchir, considérer que le quotidien est un cycle qui se répète indéfiniment et non un parcours linéaire qui va toujours de l'avant. Ne pas se hâter, ne pas rejeter la faute sur soi, ne pas se laisser intimider, ne rien attendre, ne pas avoir peur de la fin. Et par-dessus tout, rester calme. Ne rien dire, être indifférent à tout, ne se laisser affecter par rien. Comment est-ce d'être recroquevillé dans la rue? Quel regard les autres portent-ils sur vous? J'ai posé mon appareil photo sur un plot et j'ai relevé ma capuche.
Il vous reste à vous remercier infiniment, Christos Chrysopoulos, Michel Volkovitch et puis Baptiste Roussillon pour cette belle lecture et ce beau texte. Merci beaucoup à vous.